Edgar Morin est philosophe et sociologue. Il est penseur de la complexité, de ce qui est tissé ensemble dans un enchevêtrement d'entrelacements. Ce sont des amis de l'université de Berkeley, en Californie, qui l'éveillent à la conscience écologique. Edgar Morin est considéré comme le père de l'écologie politique. Vous êtes le 10 avril 2018 à l'université permanente de l'université de Nantes et vous écoutez Edgar Morin pour une refondation de la pensée politique.
Mesdames et messieurs et chers amis, le mot de refondation d'une pensée politique, le mot de refondation doit être pris à la lettre. C'est pas du tout de chercher un programme, c'est beaucoup réfléchir sur les fondements nécessaires à une pensée politique. Les fondements, c'est-à-dire la conception de l'homme, de la femme, la conception de l'être humain qui est implicite ou explicite. Par exemple, chez Rousseau, la conception bien explicite, c'est que l'homme est bon, donc ça veut dire qu'il faut lui laisser beaucoup de liberté. Par contre, chez Hobbes, l'homme est mauvais, il faut au contraire le contrôler sans arrêt. Chez Marx, l'homme est producteur, et donc il est caractérisé surtout par son activité technique et matérielle. Bon, vous avez donc des conceptions différentes de l'homme, des conceptions de la réalité, des conceptions même de la façon de penser. Pour prendre l'exemple de Karl Marx, qui est intéressant parce qu'il a fourni une vision très cohérente et très complète qui a fait la force du marxisme pendant presque un siècle et qui en même temps a constitué sa faiblesse. Sa force, c'est parce qu'il y avait une conception de la façon de penser qu'il avait hérité de Hegel, sa conception du monde qui était matérialiste, qui était fondée sur la matière, qui était la chose dominante, une conception de l'histoire qui était menée par la lutte des classes et la force de production, une conception déterministe qui faisait que la logique même de l'histoire faisait que la destruction des classes moyennes au dépit d'une petite couche d'exploiteurs et une grande couche de prolétaires aboutirait nécessairement à une révolution et une société sans classe. Enfin, bref, vous aviez toute une série de conceptions dont nous voyons aujourd'hui les lacunes, mais aussi les qualités. Alors, je veux partir de cette conception de l'humain. L'humain, c'est une réalité trinitaire. Comment ? Comme dans la Sainte Trinité. C'est-à-dire, il y a trois termes. L'individu, la société et l'espèce biologique, Homo sapiens, auquel nous appartenons. Ces trois aspects ne sont pas des aspects qu'on peut séparer, ils sont indissolublement liés et dépendants les uns des autres. Pourquoi ? Disons, nous, individus, nous sommes produits par un processus de reproduction qui est celui de l'espèce, mais pour que l'espèce continue, il faut, jusqu'à nouvel ordre, que deux individus s'accouplent et produisent des enfants. Donc, nous sommes des produits producteurs. Pour la société, ce sont les interactions entre les individus qui constituent la société, mais la société, une fois constituée, elle a des qualités propres qui sont la culture, qui sont le langage, qui sont les mœurs, et la société rétroagit sur l'individu, lui donne ses qualités, lui apprend à parler, donc à penser, et donc nous produisons la société, mais laquelle nous produit, sans laquelle nous serions des primates d'un très bas rang. Donc, si vous voulez, il y a cette interdépendance des trois éléments. Et du reste, c'est assez intéressant de penser qu'à la fin du 19e siècle, les penseurs qui voulaient changer la société, les uns pensaient qu'il fallait surtout, avant tout, épanouir l'individu, et c'était les libertaires, les anarchistes. D'autres pensaient qu'il fallait améliorer la société, c'était les socialistes. Et d'autres pensaient qu'il fallait créer une communauté, une fraternité, c'était les communistes. Et puis ces trois courants, qui étaient plus ou moins liés, se sont séparés, sont devenus hostiles les uns aux autres. Mais nous voyons aujourd'hui que ce sont les trois aspects indissolubles de la réalité humaine. Si nous pensons à la politique, il faut qu'elle pense à l'individu, il faut qu'elle pense à la société, il faut qu'elle pense à l'espèce. Alors, commençons par l'individu. L'individu, on a des définitions classiques. On dit homo sapiens, on définit l'homme par la raison. Et c'est vrai, c'est un être capable de très grande rationalité. Mais en même temps, on oublie l'autre pôle, au moins aussi important, qui est homo demens, c'est-à-dire le délire ou la folie. Parce que la folie, ce n'est pas seulement le propre d'un certain nombre de malheureux qu'on enferme dans des asiles. La folie est en chacun de nous. À chaque crise de colère ou de fureur, c'est un moment de folie. À chaque moment de haine et de dégoût, c'est un moment de folie. Et il y a ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris, c'est-à-dire une ambition effrénée, une mégalomanie qui, vous savez, a saisi les plus grands conquérants de l'histoire, a été le fait de Hitler dernièrement. Et donc, si vous voulez, on peut penser que la folie est quelque chose de... Et du reste, quand vous voyez la quantité de destruction incroyable de civilisations, de bibliothèques, de massacres d'humanité au cours de l'histoire, aussi bien de l'Antiquité que des temps modernes, vous direz qu'il y a quelque chose de délirant dans l'humanité. Alors, on a ces deux pôles. Et ce qui est très intéressant aussi, ce qu'ont démontré les neuroscientifiques qui ont étudié le cerveau, comme Damasio, c'est qu'il n'y a pas, quand un centre rationnel est activé, comme par exemple une recherche mathématique, il y a en même temps un centre émotionnel qui est activé. C'est-à-dire que le mathématicien, il a la passion des mathématiques. Quand il fait sa recherche, ce n'est pas seulement un travail rationnel, c'est un travail passionnel. Et nous nous rendons compte que, dans le fond, la raison pure, froide, glacée, n'existe à la limite que chez certains économistes qui ne croient connaître le monde humain qu'à travers des chiffres, des statistiques, des PIB, des sondages d'opinion, etc., alors que les chiffres et les calculs ne montrent qu'un aspect de la réalité. Mais sinon, nous avons le problème de lier toujours la raison et la passion, ou le sentiment. Parce que la passion sans raison glisse à la folie, mais que la raison sans passion, elle est glacée, elle est froide, elle est elle-même une forme de délire. Donc, nous sommes condamnés toujours à naviguer entre les deux, avoir toujours le contrôle de la lucidité de la raison, mais avoir toujours le sentiment. Et ça, c'est d'une importance pas seulement générale, c'est d'une importance politique. C'est-à-dire, il faut savoir que quand on s'adresse à des gens, on s'adresse, on doit s'adresser à la fois à leur raison et à leur sentiment. Celui qui ne s'adresse qu'à la passion est un pur démagogue. Celui qui ne s'adresse qu'à la raison est quelqu'un de purement abstrait. Donc déjà même, quand vous prenez cette première définition de l'être humain, vous voyez des conséquences qui peuvent jouer sur la politique. Je continue. L'humain, l'individu, est défini comme homo faber, c'est-à-dire par sa capacité à faire des outils, sa capacité technique. Et ça, alors, c'est absolument évident. Nous voyons le déploiement, le développement incroyable des capacités techniques, les missiles, les centrales nucléaires, les intelligences artificielles, les robots. Mais il y a l'autre pôle qu'on a oublié, c'est qu'on peut appeler l'homo mythologicus ou religieux, c'est-à-dire l'homme mythologique ou religieux. Mais vous me direz, c'est secondaire. Non, ce n'est pas secondaire. Dès Néandertal, le cousin dont nous avons une partie des gènes, dès Néandertal, les morts sont enterrés avec leurs armes et avec leur nourriture, c'est-à-dire que l'on pense qu'ils vont continuer une vie spectrale après la mort. Et, ou bien, ils sont enterrés dans une position de fœtus, comme s'ils allaient renaître bébé et une nouvelle vie. Et vous vous rendez compte que dans toutes les civilisations, il y a toujours l'aspect mythologico-religieux. Et vous prenez la civilisation la plus matérielle, la plus technique qui soit aujourd'hui, celle des États-Unis, eh bien vous voyez que dans cette civilisation où l'argent est roi, eh bien dans ce roi, le dollar, qu'est-ce que vous voyez qui est inscrit ? In God we trust. Nous avons confiance en Dieu. Et qu'est-ce que fait le président ? Il prête serment sur la Bible. Et vous savez que la société américaine est une des plus religieuses qui soit, tout en étant une des plus matérialistes, des plus business-like qui soit. Bon. Alors, autre chose très intéressante, c'est que l'Union soviétique, pendant 70 ans, a voulu éradiquer la religion orthodoxe, et puis toutes les religions, bien sûr. Elle a créé des écoles d'athéisme, elle a fermé les églises, elle a fait un effort gigantesque. Et quand ce système s'est effondré, qu'est-ce qui restait ? Qu'est-ce qui s'est montré ? Encore plus fort qu'avant la Révolution. L'Église orthodoxe, plus puissante que jamais, de même que le capitalisme qu'on croyait avoir éliminé, plus puissant. Mais là, c'est l'Église orthodoxe, la religion. Poutine, ancien agent du KGB, ancien agent communiste, rend hommage à l'archimandrite, à la religion. Donc, vous voyez que là, on ne peut pas considérer que la religion est quelque chose qui peut être secondarisé. C'est quelque chose de très important. Et entre parenthèses, moi, je suis partisan d'enseigner les religions dans l'enseignement. Pour deux raisons. La première, c'est que l'on voit l'universalité du fait religieux et en même temps sa diversité. Et la deuxième, c'est que quand on voit la diversité des dieux qui chacun se prétend le vrai authentique, et quand on voit que tous les grands dieux de l'Antiquité, Baal, Mitra, Zeus, Junon, tous ces dieux sont morts, on commence à avoir un peu de doute sur la vérité absolue de telle ou telle religion. Donc, et c'est important, mais vous ne pouvez pas éradiquer de l'être humain, sinon la religion, du moins le besoin de mythes. Moi-même qui me parle, j'ai mes propres mythes, moi j'ai ma mythologie, je crois en la fraternité. Et je ne suis pas sûr que la fraternité va triompher sur Terre, mais je crois en cela, et donc je suis animé par un mythe. Donc, vous savez, et donc là aussi, c'est très important que la politique a besoin de mythes, mais de mythes qui eux-mêmes peuvent dialoguer avec la raison, qu'on peut dialoguer avec ses propres mythes et ne pas être entièrement soumis à eux, comme des esclaves, comme des fidèles qui adorent un dieu et qui font tout pour obéir, alors que ces dieux sont la création de leur esprit. Donc, deuxième aspect. Troisième aspect, c'est cette idée qui est apparue au XVIIIe siècle, c'est l'idée d'homo economicus, c'est-à-dire de l'homme qui agit par intérêt économique, par profit personnel, par intérêt personnel, et aussi, d'après cette conception, de façon rationnelle. Tout d'abord, disons que souvent on croit agir selon son intérêt, et puis c'est pas tellement rationnel. Vous achetez des bitcoins, vous achetez des actions, vous achetez quoi, et vous croyez que vous allez faire des bénéfices, ça peut être le contraire. Enfin, mais l'idée que réduire l'humain à l'intérêt personnel, là aussi c'est une vision unilatérale. Il y a deux pôles dans l'être humain. Il y a l'homo economicus et il y a l'homo ludens, l'homme du jeu. Il y a même un très beau livre d'un philosophe néerlandais, Huizinga, qui s'appelle Homo ludens, c'est-à-dire qui montre que il y a chez les êtres humains beaucoup d'activités qui sont pour le plaisir, qui sont gratuites, qui ne sont pas pour l'intérêt, qui sont pour la jouissance, qui sont pour la dépense. Et le philosophe Georges Bataille a bien montré que la dépense, c'est aussi une chose qu'on aime faire, qui vous épanouit, et pas seulement l'accumulation de la recherche. Vous avez des mécènes comme l'été Pierre Berger, qui aimait accumuler, ont accumulé des fortunes pour pouvoir les donner et les distribuer à des artistes ou à des autres. Donc, si vous voulez avoir une conception restreinte de l'individu, et surtout qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs de la vie politique, dans tous les ministères, dans l'idéologie dominante, on croit au calcul, à l'homo economicus, à l'intérêt personnel. C'est une vision unilatérale, réductrice, qui ne voit pas la complexité humaine, et donc je pense que c'est très important. Alors, j'ajoute que on peut toujours, je rappelle une phrase, très belle phrase du poète Hölderlin, qui disait « Poétiquement, l'homme habite la terre ». Alors, poétiquement, ça veut dire en étant capable d'avoir de la ferveur, avoir de l'émerveillement, avoir des sentiments d'émotions merveilleuses, comme ceux que nous avons devant un coucher de soleil, un tourbillon des tourneaux, des belles œuvres d'art. C'est vrai, mais il a oublié de dire que l'homme habite prosaïquement la terre. Et qu'est-ce que c'est que la prose ? La prose, c'est tout ce que nous faisons par contrainte pour survivre, pour gagner notre vie, pour nous défendre, mais sans plaisir. Alors que la qualité poétique de la vie, c'est tout ce qui nous dilate, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est le repas collectif entre amis, c'est d'aller au cinéma, c'est d'aller au théâtre, c'est tout ça. Et donc, vous voyez bien que le problème aussi, je ne dis pas que par la politique, on peut donner, distribuer de la poésie aux gens, non. Mais la politique doit faire attention à faire en sorte que puisse être diminuée au maximum la partie prosaïque de la vie et de pouvoir donner la liberté à la partie poétique de la vie. Donc vous voyez que toutes ces idées qui vous semblent purement théoriques ont une importance quand on commence à faire de la pensée politique. J'ajoute un dernier trait, parce que l'individu est aussi ce qu'on peut appeler un sujet. Qu'est-ce que c'est qu'être un sujet ? Être un sujet, c'est dire « moi, je ». C'est dire « je ». Qu'est-ce que ça veut dire « moi, je » ? Ça veut dire « je m'affirme au centre de mon monde », autrement dit, de façon égocentrique. Égocentrique, je me mets au centre du monde. Ce n'est pas du tout l'égoïsme, mais ça conduit aussi à l'égoïsme. C'est-à-dire, je suis égocentrique, ça veut dire d'abord moi, il faut que je mange, il faut que je me nourrisse, il faut que je me défende, il faut que je travaille, il faut que je gagne ma vie. Donc, il est évident que dans le sujet, il y a comme une sorte de logiciel, pour parler ce langage d'aujourd'hui, qui est le langage du moi-je, du sujet. Mais, pourtant, le nouveau-né, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend le sourire, il attend le bercement, il attend qu'on le prenne dans les bras, il attend la communication. Autrement dit, en même temps qu'il y a le logiciel du « je » et le logiciel du « nous », on est, ou du « tu », c'est-à-dire l'autre ou bien de la communauté. Et la famille est la première communauté. Et on a besoin aussi de la communauté. Et si je veux élargir le problème, je dirais que l'aspiration profonde de tout être humain est de se réaliser soi-même, de réaliser sa propre individualité, mais toujours au sein d'une fraternité, d'une communauté. Puisqu'on est en ce moment en train de commémorer mai 68, de la façon la plus diverse, en voyant, c'est un événement très complexe, il y a plusieurs aspects, mais il y a un aspect qui était capital, à mon avis, dans ce mouvement qui, au départ, a poussé ces jeunes, ces adolescents, c'est justement ce besoin de s'exprimer soi-même, d'affirmer leur individualité, mais dans la fraternité, dans la collectivité. Aussi, par exemple, quand M. Péri prétend que mai 68, c'est avant tout l'individualisme, il a raison, mais c'est limité, c'est unilatéral. C'est l'individualisme dans la communauté, dans la fraternité. Et bien entendu, quand le mouvement est retombé, quand la fraternité s'est dispersée, s'est désintégrée, l'individualisme est resté. Donc, pour en revenir à cette idée-là, il faut penser que tout être humain a besoin d'être reconnu comme individu, de s'exprimer comme individu, mais a besoin aussi d'autrui, d'amour, d'amitié, de fraternité. Et du reste, c'est ce que offrent souvent les politiques. Mais par exemple, quand ils offrent un accès de communion, comme par exemple dans les grandes fêtes nazies ou staliniennes, comme ça, alors on fait la communauté, mais on détruit l'autonomie de l'individu. Par contre, dans notre civilisation actuellement, c'est l'individu avec tous ses aspects égoïstes et son indifférence à autrui et qui devient important, et on oublie le minimum de solidarité et de fraternité, et on trouve tout à fait normal que des gens couchent, soit des SDF qui couchent dans la rue, etc., ou bien qu'il y ait des réfugiés qui sont là et auxquels on ne doit pas regarder. Donc, vous voyez que dès que vous commencez à faire un premier tour d'horizon, je dirais anthropologique, c'est-à-dire sur ce qu'est l'être humain, vous trouverez des problèmes qui ont leur traduction, qui peuvent se trouver dans la politique. Alors, j'ai dit que l'individu, il est un être social. C'est évident que nous avons par exemple des enfants loups qui sont élevés sans aucune société, sans famille, ne peuvent pas se développer pleinement comme être humain. Alors, la société est quelque chose qui s'est historiquement fondé avant tout sur l'autorité. Les premières grandes civilisations sont des civilisations, disons, de l'autorité, où les individus sont des sujets. C'est-à-dire, dans le sens, ils sont la propriété des chefs, des rois, des pharaons, des dieux. Mais vous savez que c'est dans quelques cités grecques, dans l'Antiquité, au 5e siècle avant notre époque, pendant très peu de temps, qu'il y avait trois types de régimes. Les tyrannies, le mot est clair, les oligarchies, la domination des féodaux, des riches, et la démocratie, les citoyens qui eux-mêmes contrôlent les institutions, contrôlent les élus, contrôlent les chefs. Et là, il est certain que quand vous avez même déjà des rudiments de démocratie, parce qu'à Athènes, les esclaves étaient exclus, et les métèques, les étrangers, étaient exclus, mais enfin, c'était le premier noyau, et que la démocratie n'a pas duré longtemps à Athènes. Une première fois, elle a été détruite par la défaite dans la guerre contre Sparte, et une deuxième fois, elle a été détruite par Philippe de Macédoine. Puis vous avez les démocraties au Moyen-Âge, dans quelques cités italiennes. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'apparaissent des démocraties plus compliquées que des nations. Et vous savez, elles sont toujours inachevées, insuffisantes, en crise, etc. Et le grand problème se trouve, comment trouver une relation où, en quelque sorte, le citoyen est à la fois responsable, a des droits et des devoirs, demande à l'autorité sociale de respecter son autonomie, sa liberté de penser, sa liberté de parler, et en même temps, lui, doit aussi se sentir responsable de la collectivité. Alors, vous avez un énorme problème. Je veux très rapidement esquisser ce problème de la démocratie, parce que la démocratie, vous savez, c'est pas seulement la loi de la majorité. La démocratie, c'est pas seulement la séparation des pouvoirs, qui est très importante, puisque ça empêche la concentration des pouvoirs. Vous avez le judiciaire, vous avez le législatif, vous avez l'exécutif. La démocratie, c'est le conflit des idées, c'est-à-dire des idées opposées qui s'opposent, mais qui ne prennent pas l'opposition physique violente, l'opposition des discours, et qui se traduit finalement par des votes. Donc la démocratie est un système assez fragile, parce que ou bien les idées sont trop explosives et conduisent à des coups d'État qui détruisent la démocratie, ou bien il n'y a pas assez de vitalité d'idées, comme actuellement, excusez-moi de le dire, et à ce moment-là, la démocratie s'aplatit, se stérilise, et la conscience citoyenne se dégrade. Donc, et en plus, une démocratie, ben, ça doit pas seulement respecter la pluralité, mais aussi protéger les minorités qui, elles, souvent n'ont pas la possibilité d'avoir leurs représentants dans les assemblées, etc. Et enfin, il y a une chose très importante qu'a mis en relief Claude Lefort, c'est que la démocratie n'a pas de vérité. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que les gens, les partis, le parti qui va être majoritaire, va imposer sa vérité pendant un certain temps, 4 ans, 5 ans, mais une autre vérité pourra le remplacer, une vérité contraire. C'est-à-dire, la démocratie, à la différence des systèmes théocratiques ou totalitaires, n'a pas de vérité. Par contre, un système théocratique, la vérité vient de Dieu, qui est tout, ou bien dans un système totalitaire, par exemple, les dirigeants connaissent la vérité de l'histoire, ils savent pour eux, par exemple, le fascisme, le nazisme, que la vérité, l'humanité est faite de races, des races supérieures faites pour gouverner, des races inférieures pour subir, être esclaves. Dans le communisme, c'est le parti qui, possesseur de la vraie doctrine, connaît la vérité en littérature, en philosophie, en biologie, etc. C'est-à-dire que la vérité, c'est la propriété des systèmes théocratiques ou totalitaires. Mais une démocratie n'a pas de vérité. Elle laisse les libertés en jeu. Et c'est pourquoi, quand nous sommes en situation de dictature ou de non-démocratie, comme nous l'étions sous l'occupation à cette époque où nous faisions de la résistance, il est certain que Nous rêvions de démocratie parce que nous rêvions de liberté. Mais une fois que la démocratie arrive, elle va perdre progressivement sa valeur d'enchantement. Et en plus, il va y avoir des phénomènes de dégradation comme ceux que nous voyons aujourd'hui, où les démocraties qui ont déjà été insuffisantes sont remplacées par des régimes, disons, pour être gentils, semi-autoritaires, que ce soit à Moscou, que ce soit à Ankara, que ce soit à Budapest, que ce soit à Varsovie. Bon. Donc, voilà aussi un problème de fondement. Comment vitaliser et régénérer la démocratie? Ça ne fonctionne pas tout seul. Voilà, c'est un mot. Alors, voilà pour le problème de rapport relation avec la société. Et maintenant, je veux aborder le problème de l'homme animal tout en étant humain. Ce problème-là, alors, il va être extrêmement intéressant. Il va être extrêmement intéressant, pourquoi? Parce que nous savons depuis Darwin que nous sommes issus d'une évolution biologique, les primates, dont les singes, qui eux-mêmes sont des mammifères, et nous-mêmes nous sommes des mammifères. Même les hommes ont des petits tétons, ce qui prouve qu'il y a les restes de mammifères. Et nous sommes des vertébrés, nous sommes des animaux, etc. Bon. Et ce qui est aussi remarquable dans cette évolution, c'est ce que nous avons appris assez récemment de l'hominisation. Parce que nous avons appris, grâce à M. Brunet, qui a trouvé dans le Tchad, c'est-à-dire dans une forêt tropicale il y a 6 millions d'années, des restes d'un hominien, d'un bipède. C'est-à-dire que le bipédisme commence dans la forêt tropicale et non pas dans la savane comme on l'avait cru, parce que dans la savane, on est obligé de lutter contre les ennemis et de devenir un chasseur chassé. Mais ce qui est très intéressant, d'après au moins la thèse de la paléontologue Anne d'Ambrécourt-Malassé, c'est que on voit chez les primates, à l'embryogenèse, au moment de l'embryogenèse, de la formation de la vie, une tendance au cours des générations au redressement de la colonne vertébrale. Avec les chiens, les chats, la colonne vertébrale, elle est horizontale, hein, ils ne sont pas. Et ce redressement, cette poussée vers le haut qui va redresser la tête et redresser le corps, va conduire à des modifications extraordinaires dans le cerveau, le cervelet et tous les organes qui sont dans la tête. Pourquoi? Parce que se tenir en équilibre sur ses pieds, ce n'est pas donné. Il faut une complication, il faut un système permanent de maintien d'équilibre. Et ça, c'est le produit de cette évolution, de cette poussée comme ça, verticale, comme pour regarder vers le ciel. Comme donc, nous sommes de l'évolution. Et nous pouvons dire donc que nous sommes des animaux. Et comme les animaux sont eux-mêmes des polycellulaires, nous avons en nous des cellules qui sont les sœurs, filles, mères, les premières cellules qui ont existé sur la Terre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que nous sommes porteurs de façon singulière, tout en restant des humains, nous sommes porteurs de toute l'histoire de la vie, depuis les premières cellules jusqu'à la formation de polycellulaires qui se sont divisées. Vous avez eu chez les eucaryotes les végétaux, et vous avez les animaux. Donc, nous avons en nous l'histoire de la vie. Et c'est une chose très importante. Pourquoi ? Parce que pourquoi nous résistons, nous, Français, Européens, Occidentaux, avons-nous tellement résisté à la prise de conscience qu'on appelle écologique, c'est-à-dire notre relation d'interdépendance avec la nature vivante? Pourquoi? Eh bien, parce que dans la Bible, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, c'est un être supérieur de qualité divine. Deux, comme l'a très bien dit saint Paul, notamment dans son épître aux Corinthiens, la résurrection est promise aux bons chrétiens, c'est-à-dire la capacité de se retrouver son corps intégralement, alors qu'évidemment, les animaux en sont exclus, même les chiens-chiens à leur mémère. Troisièmement, quand notre civilisation occidentale s'est développée au XVIIe siècle, industrielle, technique, etc., le fossé s'est accentué. Descartes a bien montré que d'un côté, il y avait l'humain qui a une âme et un esprit, et les animaux qui ne sont que des machines automatiques, comme les robots que nous fabriquons. Donc, nous sommes, et Descartes avait dit, la mission de l'humain est la conquête de la nature, la conquête du monde. Et on s'est lancé à la conquête du monde. On s'est lancé à la domestication des animaux, à forer les puits de pétrole, à prendre l'énergie de la matière. Et dans cette conquête, nous avons commencé à polluer la planète, à détruire la biodiversité, à créer le danger du changement climatique est plus grave que tout. L'agriculture et l'élevage industrialisés ont complètement stérilisé et dénaturé les sols. Ils ont détruit toute vie, les insectes, les vers de terre. Et vous avez vu récemment dans les journaux la disparition drastique des oiseaux en France. D'ailleurs, quand vous voyez ces étendues de monoculture, il n'y a pas un champ d'oiseaux, il n'y a rien, c'est la mort totale, c'est des machines. Vous avez une terre complètement dégradée et des produits insipides, des produits pleins de pesticides, des produits parfois dangereux. Et c'est ça, désormais, la consommation et l'alimentation. Donc, nous n'avons pas pris conscience, nous commençons à peine à prendre conscience de notre relation avec la nature et de tout ce que ça suppose, de tous les dangers, des pollutions multiples, des dangers de la déforestation totale de l'Amazonie. Et pourquoi? Parce que, je répète, nous avons vécu dans cette illusion que nous étions tellement différents, que nous n'étions même pas des animaux, que nous étions des survivants, des vivants de qualité supérieure, et que nous étions frais pour être tout ça. Donc, voilà. Mais j'ajoute que nous sommes pas seulement des vivants, mais, et ça c'est la grande découverte de Crick et de Watson en 1951, nous avons découvert que l'unicellulaire, la bactérie, la cellule vivante, sont constitués uniquement et intégralement de composants physico-chimiques, molécules, macromolécules. Alors quoi? Cela signifie que l'organisme vivant, l'organisation vivante, produit des qualités qui n'existent pas dans les molécules prises isolément. Et ces qualités, nous les connaissons tous. C'est la capacité de se reproduire, c'est la capacité de s'auto-réparer, c'est la capacité cognitive, c'est la capacité de se nourrir pour compenser la dégradation de l'énergie que produit l'activité physique. Et toutes ces qualités nouvelles, c'est ça qu'on appelle vie. C'est là le miracle de l'auto-organisation vivante. Donc, si vous voulez, nous découvrons que, alors là, nous ne sommes pas seulement des êtres intégralement vivants, Nous sommes des êtres intégralement physico-chimiques. Et d'ailleurs, nous sommes des machines physiques. Notre organisme est une formidable machine. Dès que je commence à manger un plat de spaghettis, la salive commence à transformer ses spaghettis, qui commencent avec différents sucres transformés dans mon estomac, et vont subir un transit absolument incroyable jusqu'à ce que les résidus soient expulsés. Tout ça, des machines thermiques, on fonctionne à 37 degrés, mais nous ne sommes pas que des machines. Ou plutôt, comme disait von Förster, nous ne sommes pas des machines triviales. Qu'est-ce que c'est qu'une machine triviale? C'est une machine qui, quand vous connaissez son programme, vous connaissez ce qu'elle va faire. C'est ce qui se passe avec nos différentes machines. Or, le propre de l'être humain, c'est de pouvoir ne pas faire ce qu'on attend de lui, ce que normalement il doit faire. Moi, je me souviens d'un excellent ami qui était un sculpteur et qui est devant monsieur le maire pour se marier. Et quand le maire a demandé à la jeune fille, est-ce que vous voulez, elle a dit oui. Et quand il lui a demandé à lui, elle a dit attendez. Et il avait une marguerite à sa boutonnière. Il a commencé par les feuillets. Oui, non, oui, non. La dernière pétale, non. Il dit, ah non, je m'excuse, je ne me marie pas. Ben, ça arrive. Heureusement, nous faisons de l'étendue. Nous rencontrons une personne de l'autre côté du métro. Nous sommes fascinés par elle, nous courons. Et ça sera notre épouse, notre compagne. Tout ce qui se passe dans la vie est imprévu et en plus créatif. La créativité de la vie avec qui a créé tellement d'espèces diverses et la créativité humaine qui a créé tellement d'œuvres magnifiques. Bon, c'est ça le phénomène. Autrement dit, alors c'est ça où nous sommes dans une situation extraordinaire. Nous ne sommes pas des machines triviales. Nous ne pouvons pas obéir à un programme strict. Nous n'aimons pas ça, nous voulons. Et par contre, le rêve des technocrates, des éconocrates qui règnent aujourd'hui, c'est justement une société où tout est bien organisé, où l'imprévu n'est pas possible. C'est la société algorithmisée. L'algorithme, c'est le principe qui permet de contrôler tout ce qui va se passer. Et alors le rêve, c'est l'harmonie. Ils oublient que cette harmonie, c'est l'harmonie des machines. Mais ce n'est pas l'harmonie de l'humain. L'humain, là, vous savez, dans l'humanité, d'ailleurs j'y viendrai tout à l'heure, l'harmonie a toujours besoin de disharmonie. Et je vais en terminer un peu là-dessus. Et voilà. Mais c'est pour dire que nous avons une réalité physique incontestable, de machines physiques. Nous sommes faits de molécules, nous sommes faits d'êtres vivants. Nous faisons partie du cosmos. Je dirais même, nous faisons partie de l'aventure cosmique. Et donc, à ce moment-là, ça a des conséquences. Ça donne à la conscience écologique, à la conscience humaine. On se rend compte que les précolombiens des Andes, les Quechua, les Aymara, qui vénéraient la Pachamama, la déesse mère, la déesse terre, étaient plus en avance que nous dans la conception de la nature, que ces mêmes populations qui adoraient comme dieu Inti. Inti, c'est le soleil, mais le soleil, c'est un vrai dieu, parce que sans le soleil, sans ses rayons, les plantes ne pourraient pas transformer en énergie l'énergie solaire. Elles ne pourraient pas vivre. Et si les plantes ne vivaient pas, les animaux ne pouvaient pas vivre. Nous sommes. Donc, si vous voulez, on se rend compte que dans ce qu'on croyait des superstitions, il y a parfois plus de vérité que de conceptions qui se sont prétendues scientifiques. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a une tentative de régénération de la science qui a commencé. Alors, donc, voici la réalité humaine. La réalité humaine, c'est que nous faisons partie de la vie, nous faisons partie de l'univers matériel, nous faisons partie de l'aventure cosmique. Et donc, à ce moment-là, nous allons terminer par une dernière partie en considérant notre histoire actuelle. Tout d'abord, la conception même de l'histoire. Vous savez, ou bien l'histoire est vue sous un aspect déterministe, hein, comme dans la vision de Marx ou la vision des économistes, ou bien tantôt sous l'aspect du hasard, d'événements inattendus ou incroyables. D'ailleurs, c'est la vision shakespearienne qui disait que la vie, donc l'histoire, disait tel, tol, by an idiot, and signifying nothing, c'est-à-dire c'est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Et c'est vrai qu'il y a aussi le bruit et la fureur. Et quand nous voyons l'histoire humaine, il nous faut faire copuler ensemble la vision de Marx qui voit des développements rationnels, des développements économiques, et en même temps la vision shakespearienne qui voit des catastrophes, des destructions. Et c'est vrai que quand on pense à toutes ces civilisations qui sont mortes, détruites, assassinées, on pense que dans l'histoire, il y a beaucoup plus de bruit, de fureur que de rationalité. Alors voilà l'histoire humaine. Mais nous sommes arrivés à une nouvelle époque historique. C'est l'époque de la mondialisation. Elle a commencé il y a très longtemps. On peut dire que ça a commencé avec la route de la soie, avec les échanges entre la Chine et l'Empire romain à l'Antiquité. On peut dire que ça a pris un essor avec la conquête des Amériques et la navigation autour du globe à partir de 1492. Mais on est entré dans une époque nouvelle qu'on appelle la globalisation et qui est de 1989-91, c'est-à-dire l'époque où il y a désormais un marché mondial, c'est-à-dire il y a l'effondrement des économies bureaucratiques qu'on appelait soi-disant socialistes, en URSS, en Chine, partout, et au profit du marché, du capitalisme, de l'entreprise. Alors vous avez donc, si vous voulez, une économie désormais mondialisée sous l'égide du capitalisme, et en même temps, vous avez l'essor des télécommunications immédiates, la capacité de téléphoner d'un point du globe à l'autre, de faxer, de Internet et tout ça. Donc, vous avez l'unification techno-économique de la planète. Cela est incontestable. Mais alors, comment se fait-il que cette unification techno-économique, avec tellement de communications, produise... Elle a commencé par produire du chaos. Elle a commencé par produire la guerre de Yougoslavie, où un pays s'est disloqué, la dislocation de la Tchécoslovaquie. Elle a provoqué dans l'ancienne URSS la lutte entre les Arméniens et les Azéris. Elle a provoqué la refermeture des cultures sur leur religion. Elle a créé, c'est-à-dire que d'unification techno-économique, au lieu de créer une communauté planétaire, elle a au contraire aggravé les différences et elle a fait que beaucoup de cultures, par peur d'être entièrement absorbées par la culture occidentale, se sont refermées sur elles-mêmes. Ajoutons que, au cours de cette époque, le mythe du progrès indéfini est mort. On a cru longtemps que l'histoire ne pouvait que progresser et on s'est rendu compte dès la fin du siècle dernier que l'histoire allait peut-être vers des catastrophes, vers l'incertitude, vers l'angoisse. Et l'angoisse provoque les peurs, la rétraction. Et ce qui est très curieux, c'est que nous sommes dans une époque où vraiment tous les êtres humains vivent une communauté des destins, c'est-à-dire une relation d'interdépendance totale, une relation dans laquelle ils ont les mêmes périls, les mêmes problèmes, c'est-à-dire le péril de l'arme nucléaire croissant, le péril de la dégradation écologique de la biosphère croissant, le péril d'une inégalité économique non régulée croissante, le péril du gigantisme de mégapoles avec tout ce qu'elle apporte de misère croissante. Enfin bref, vous avez sans compter l'arme informatique qui fait qu'aujourd'hui, un pirate habile peut faire détruire une société privée brusquement de toutes ses connexions par Internet. Donc, nous avons une communauté de destin. Et c'est là, effectivement, cette communauté de destin, au lieu d'en prendre conscience, nous fuyons cette conscience pour ne voir que notre communauté stricte, c'est-à-dire peur de l'étranger, peur de l'immigré, peur du réfugié, peur de l'autre, peur de l'arabe, peur des juifs, etc. Donc, nous voici donc dans une situation assez dramatique. Alors, dans cette situation, il y a deux futurs qui s'ouvrent, c'est-à-dire les forces, le moteur de l'évolution de la mondialité, c'est évidemment les trois moteurs, science, technique, économie. Ces trois moteurs sont bien entendu incontrôlés. La science n'a jamais été contrôlée, ni par la morale, ni par la politique. Au contraire, elle a été utilisée par la politique quand il s'agit d'armes nucléaires. Bon, la science peut produire le meilleur et le pire. Aujourd'hui, les manipulations génétiques peuvent être absolument salutaires, peuvent être aussi, peuvent aussi totalement banaliser l'espèce humaine. Bon, vous avez donc les machines que servent à maîtriser la nature, ont servi aussi à maîtriser les ouvriers qui travaillaient sur mes chiffres. Donc tout ça est ambivalent. La technique est ambivalente, la science et l'économie aussi, qui produit des inégalités, le pire, et la prospérité pour quelques-uns. Donc voilà ce processus-là. Et ces trois moteurs, ils conduisent dans deux directions différentes. Dans un sens, ils conduisent vers ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire l'idée que l'on pourra, grâce à la science, à la technoscience, limiter, reculer le vieillissement en bonne santé. Il y a même le mythe absolument insensé de l'immortalité qui ne tient pas le coup, parce qu'il est évident qu'on ne va pas, et que les bactéries et les virus sont très malins, et ne vont pas se laisser démolir, que les accidents technologiques arriveront et que de toute façon, le soleil mourra. Enfin bon, nous avons quand même la perspective de vivre en bonne santé plus vieux. Nous avons la perspective d'être servis par des machines, par de l'intelligence artificielle qui nous épargne les tâches les plus pénibles. Autrement dit, les prophètes de la Silicon Valley, les prophètes du transhumanisme, de l'homme augmenté. Bon, c'est vrai qu'il augmenterait tous les pouvoirs, mais est-ce qu'il serait amélioré? Est-ce qu'on aura lutté contre l'égoïsme, contre le fanatisme, contre la compréhension, contre le manque de charité et de bonté? Non. L'homme augmenté, c'est pas l'homme amélioré. C'est toujours ce rêve démentiel de puissance, de homo demens, qui veut toujours plus de pouvoir dans une quête démentielle. Alors que je vais vous dire tout à l'heure que le propre d'un humanisme nouveau et régénéré, c'est pas seulement d'être fier des grandes conquêtes humaines, c'est d'être humble devant les réalités de la vie. On a beau être très puissant, la mort de l'être cher vous blesse irrémédiablement, on est faible, on est infirme devant la maladie, devant la mort, devant le chagrin, devant la séparation, devant la haine, devant le mépris. Et voilà, l'humanité, c'est ça aussi, et c'est ça les ennemis principaux. Donc, la question se trouve donc posée, qu'est-ce que c'est que cette humanité augmentée et qui personne n'a en vue parmi ces prophètes que les rapports humains pourraient être meilleurs. Non, on ne voit en vue que les pouvoirs. Donc, si vous voulez, c'est une perspective glorieuse pour les uns, mais inquiétante en même temps. Mais les mêmes processus de science, de technique et d'économie nous conduisent aux catastrophes. Ils nous conduisent à la catastrophe écologique. Ils nous conduisent à des catastrophes en chaîne. Ils nous produisent à des explosions de fanatisme religieux ou autre. Ils nous conduisent à un monde qui risque aujourd'hui de s'effondrer. Alors vous avez ces deux perspectives-là, et nous ne savons pas ce qui peut arriver. Nous savons que les catastrophes sont probables, mais que le probable n'est jamais sûr. Et que je reviendrai sur l'improbable. Parce que c'est assez intéressant. Parce que si moi je dis que les catastrophes sont probables, ça veut dire qu'elles sont certaines. Personnellement, j'ai vécu une période où ce qui était probable ne s'est absolument pas réalisé. Cette période, c'est l'hiver 1941. L'hiver 1941, l'armée allemande, qui avait déclenché son offensive contre l'Union soviétique en juin 1941, était arrivée finalement en automne aux portes de Moscou, et qui allait prendre Moscou s'il n'y avait pas eu des pluies diluviennes prématurées et un gel prématuré qui l'a complètement bloqué, congelé devant Moscou. Or, il est certain que le hasard a joué un rôle, puisque Hitler avait prévu de déclencher son offensive en mai, mais il a été retardé d'un mois parce qu'il est allé au secours de Mussolini, son complice, chef de l'État fasciste italien, dont l'armée était rejetée par la petite armée grecque. Et Hitler a dû vaincre la résistance serbe, aller en Grèce, perdu un mois. Et s'il avait gardé un mois, il aurait pris Moscou sans doute. Et puis ensuite, Staline a su que par son agent Sorg, que les Japonais n'attaqueraient pas la Sibérie, et le général Zhukov a fait un miracle d'organisation. Il a pu faire transporter des dizaines de milliers de combattants de Vladivostok, de la frontière du Pacifique, dans le secret le plus total, sur le front de Moscou, des hommes aguerris, bien équipés, chaudement vêtus, avec des katouchkas. Et le 5 décembre, Zhukov, qui fut un général de génie, déclenche la première offensive. La première offensive, la première victoire soviétique, qui n'a vécu que des défaites, et qui va rejeter de 200 kilomètres les armées allemandes et libérer Moscou. Et deux jours plus tard, le Japon attaque à Pearl Harbor l'Amérique, qui met tout son poids dans la guerre, laquelle devient mondiale. Autrement dit, l'improbable qui était la victoire du nazisme, le plus probable, commence à devenir improbable, et puis après il y a eu Stalingrad et le reste. Donc, vous savez, rien n'est sûr, même le pire. Maintenant, je veux terminer sur cette idée que, de l'humanisme régénéré. L'humanisme régénéré, il y a d'abord, si vous voulez, deux visages de l'humanisme. Il y en a un qu'il faut éliminer. Quels sont les deux visages? Le premier visage, c'est qui dit que tous les êtres humains doivent être reconnus dans leur qualité humaine pleinement. Les droits de l'homme, de la femme, de l'enfant, de quiconque soit sa naissance, son pays. Non. Ça, c'est le principe de base, les droits de l'homme complétés par aujourd'hui. Le mauvais côté de l'humanisme qu'il faut rejeter, c'est de faire l'homme le roi de l'univers qui doit conquérir la nature. À l'époque, on disait ça, on pouvait s'imaginer que le monde, c'était uniquement le système solaire. Mais nous savons aujourd'hui que le système solaire, le soleil est un petit astre minable de banlieue qui fait partie d'une galaxie énorme qui elle-même est périphérique, la Voie lactée, dans un univers gigantesque. Ça n'a aucun sens de vouloir conquérir le monde. Le problème, c'est d'aménager notre Terre. C'est ça, le problème essentiel. Donc, l'humanisme doit éliminer, mais on ne doit pas se borner à la reconnaissance de l'humanité. Il y a ce phénomène, il y a que j'ai appelé la communauté destin. Aujourd'hui, tous les êtres humains vivent les mêmes dangers, les mêmes problèmes, les mêmes choses qui risquent d'être mortelles. Et c'est ça dont il faut prendre conscience et qui est un élément capital. Le troisième aspect, c'est que nous savons aujourd'hui, du point de vue de la science anthropologique, nous savons aujourd'hui que tous les êtres humains, ils ont ce caractère extraordinaire d'unité et de diversité. Ils sont tous génétiquement semblables, anatomiquement semblables, physiologiquement semblables, cérébralement semblables, émotionnellement semblables. Mais ils sont tous différents, intellectuellement, sentimentalement, moralement, caractériellement. Et en plus, les cultures sont très différentes, les musiques sont différentes, les langues sont différentes. Et donc, si vous voulez, le trésor de l'unité humaine, c'est la diversité humaine, et le trésor de la diversité humaine, c'est l'unité humaine. L'humanisme régénéré, c'est de reconnaître l'unité humaine, mais en reconnaissant pleinement la diversité qui donne sa richesse. Et c'est de reconnaître cette richesse sans oublier qu'on est tous pareils, c'est-à-dire que l'autre, autrui, est à la fois comme moi et différent de moi. C'est ça, la qualité. On respecte sa différence tout en reconnaissant son identité à nous. Enfin, l'humanisme régénéré, c'est l'humanisme qui prend conscience de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que nous sommes dans une incroyable aventure. Cette aventure, dans le fond, elle prolonge l'aventure de l'univers dont on ne sait pas où il va. Actuellement, les astrophysiciens pensent qu'il va vers sa dispersion, mais on ne sait pas. On ne sait encore. Plus on sait, moins on sait. Hein? Bon. Et en plus, on fait partie, on est un élément de l'aventure de la vie, on est un élément particulier, et nous continuons, nous faisons notre... L'aventure humaine, pensez qu'elle a commencé par des chasseurs-ramasseurs, par des gens qui vivaient dans des petites sociétés de quelques dizaines d'individus, et qui après ont créé des villages, ont créé l'agriculture, ont créé les villes, ont créé des civilisations. Et que cette histoire incroyable qui s'est poursuivie dans les temps modernes, et aujourd'hui à travers la mondialisation, et qui va, on ne sait pas où encore. Alors, dans cette aventure, moi je dirais que c'est ça aussi l'élément capital. Il faut qu'on se sente qu'on est un moment infime, mais un moment quand même intégré, un moment inhérent dans cette aventure. Et j'ajouterais en disant que l'aventure de l'humanité est une aventure qui a toujours été pleine de création et pleine de destruction. Mais dans quelle mesure aussi elle fait partie de l'aventure du cosmos? Alors là, c'est très intéressant. Parce que si vous regardez ce que nous disent aujourd'hui les cosmologistes et les astrophysiciens, ils disent à peu près ce que disait il y a 8 siècles avant nous le philosophe grec Héraclite. Qu'est-ce que disait Héraclite ? Héraclite disait « Tout est né par la conjonction de discorde et de concorde. » Et quand on voit les débuts d'hiver, tout est né à la fois par les relations, les unions, les associations entre particules, entre atomes, entre molécules qui ont formé, pas seulement les molécules, mais qui ont formé les astres, par association et relation, concorde, eros, si vous voulez, et aussi discorde, destruction de l'antimatière par la matière, destruction d'atomes qui se rencontrent, destruction d'étoiles, destruction, deuxième principe de la thermodynamique qui annonce la désintégration de tout. Tout est lié, le satellite ce rapport inextricable entre la concorde et la discorde, entre l'union et la désunion, entre le vivre et le mortel, entre l'éros et thanatos, et ça se continue dans l'histoire de la vie, où on retrouve tellement d'associations, de relations. On les découvre maintenant entre les arbres, entre les champignons et les arbres, entre les éléphants. On découvre que dans la nature, il n'y a pas seulement le conflit. Il y a le conflit, il y a des conflits, mais il y a aussi le contraire, il y a la concorde. Et dans l'histoire de l'humanité, à un niveau proprement humain, c'est toujours le rapport inextricable entre Eros et Thanatos. Ils sont liés, ils sont en lutte, tantôt l'un prend le dessus, tantôt l'autre. C'est indéchirable. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à prendre le parti d'Eros contre le parti de Thanatos.
Vous étiez le 10 avril 2018 à l'Université permanente de l'Université de Nantes et vous écoutiez Edgar Morin pour une refondation de la pensée politique.